Et nous avons le privilège maintenant d'ouvrir nos Bibles à Marc chapitre 2 pour notre temps dans la parole ce matin et ce message que j'ai intitulé « La guérison du paralytique ». La guérison du paralytique. Alors juste pour nous replonger dans le contexte avant de lire le texte, vous rappelez que Jésus donc était à Capernaüm où il a fait beaucoup de miracles et il a quitté Capernaüm à la fin du chapitre 1 pour se rendre à Galilée, pour là y prêcher la bonne nouvelle dans les synagogues. Il a guéri un lépreux, et après cette guérison qu'on a vue la dernière fois, Jésus, au chapitre 2, verset 1, revient à Capernaüm. Et c'est maintenant qu'on va voir ce que je pense est un des événements les plus connus, peut-être, dans la vie de Jésus, la guérison du paralytique, un événement assez extraordinaire. Donc on va lire Marc 2, et les versets 1 à 12. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaüm, et on apprit qu'il était à la maison. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus le contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par quatre hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi ? Il blasphème. » Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ? Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs ? Lequel est le plus aisé de dire au paralytique, « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire, « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Alors ce récit est une histoire et je propose de le diviser en 8 sections pour guider notre réflexion. Alors vous allez voir que tous les points sont construits avec la lettre P, pour la simple raison que j'avais envie de le faire comme ça, d'accord ? Mais peut-être ça vous aidera à vous rappeler ces points. Alors on commence tout de suite avec le premier point, la prédication de la parole. La prédication de la parole au verset 1. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaüm et on apprit qu'il était à la maison. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Alors comme j'ai dit, Jésus revient donc à Capernaüm et on apprend qu'il est à la maison. C'est sans doute la maison de Pierre et d'André où il avait déjà guéri la belle-mère de Pierre dans le chapitre 1. Et on apprend qu'il y a un grand nombre de personnes devant la porte, tellement de gens que ben, il n'y avait plus de place. Donc cette foule énorme se rassemble. Alors la question est, c'est pourquoi ? Eh bien à cause des guérisons. Vous rappelez que lorsqu'il avait déjà été à Capernaüm, il y avait déjà eu la guérison du démoniaque dans la synagogue, donc un démon lui avait été chassé, la belle-mère de Pierre avait été guérie, ensuite on avait vu que toute la ville pendant la soirée avait été guérie de leur maladie, et donc les gens... C'est sûr, ils veulent voir encore des miracles et ils sont là pour voir encore un miracle. Mais le verset 2 surprend un petit peu parce qu'en fait, on apprend qu'il leur annonçait la parole. Je crois que c'est important de ne pas oublier que le but premier de Jésus n'était pas de faire des miracles, mais d'enseigner la parole de Dieu et dire aux hommes qu'ils pouvaient être réconciliés avec Dieu et pardonnés. On le voit dans Marc 1, le verset 14, hein. On l'avait déjà vu, après que Jean ait été livré, Jésus alla dans la Galilée prêchant l'évangile de Dieu. Et au verset 44, il demande aux lépreux guéris d'aller se présenter aux scribes et aux pharisiens ou aux personnes qui sont au temple afin que cela leur serve de témoignage. Chapitre 1, verset 38, on peut reculer un petit peu. « Allons ailleurs dans les bourgades voisines afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti des Jésus. » Et il alla prêcher dans les synagogues par toute la Galilée. On voit clairement que Jésus annonce la parole. C'est le but. Il veut dire aux gens qu'il est le Messie, qu'ils peuvent être pardonnés de leurs péchés par son sacrifice à venir. Mais les gens sont là pour le miracle. Ils veulent voir une guérison. Et donc, verset 2, l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. C'est plein à craquer, dedans et dehors la maison. Et c'est à ce moment-là que quelque chose d'étonnant se passe avec un homme paralytique. Numéro 2, le problème du paralytique. Verset 3. Des gens vinrent à lui amenant un paralytique porté par 4 hommes. Et comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, et on s'arrête là. Des gens viennent amenant un paralytique porté par 4 hommes. Matthieu 9, 10, passage parallèle, dit « Et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. » Donc un homme totalement paralysé, est amené à Jésus. Alors, petit détail, il est dit dans le texte que les gens vinrent à lui et que ces gens amenaient à Jésus un paralytique porté par 4 hommes. Donc, voici la scène. Jésus est en train d'enseigner à l'intérieur de la maison. C'est plein à craquer. Il n'y a plus de place dedans. Donc, les gens sont dehors de la maison et tentent d'écouter, de voir. Mais il y a beaucoup de gens tout autour de la maison. Tout à coup, 4 hommes arrivent en portant un paralytique sur un lit. Alors, il y a certaines personnes dehors, en voyant ce paralytique arriver porté par 4 hommes, ils se disent « Ah, super, un vrai malade !» On va l'amener à Jésus pour qu'il le guérisse, parce qu'ils étaient là pour le miracle. Donc, ces gens disent aux 4 porteurs, apparemment, « Venez avec nous, on vous amène à Jésus. » Pensant que ça allait, un petit peu comme la mer Rouge, peut-être ouvrir un passage pour amener ce paralytique devant Jésus. Mais la foule est trop grande et apparemment personne ne veut céder leur place pour ce paralytique qui prend beaucoup de place. Et ils sont coincés. Impossible d'accéder à Jésus. La foule ne bouge pas. Parlons un peu du paralytique. Que savons-nous de lui ? Pas grand-chose en fait. Alors on sait que son état était grave, du fait qu'on a dû l'amener sur un lit. Apparemment il ne pouvait pas se déplacer de lui-même, il était couché sur ce lit. Il était donc vraisemblablement paraplégique. Il ne pouvait apparemment même pas s'asseoir. Les chaises roulantes à l'époque n'existaient pas encore. Cet homme était donc condamné à être couché pour le reste de sa vie, et pour se déplacer, il était dépendant sur d'autres personnes pour le porter sur son lit. Alors on peut comprendre qu'un paralytique était vraiment un homme condamné. C'était presque pire que d'être lépreux. Il ne pouvait pas bouger, pas travailler, il ne pouvait même pas prendre soin de lui-même. En tant qu'invalide, il était rejeté de la société. Et ce rejet était particulièrement violent à l'époque de Jésus. En fait, la seule chose que pouvait faire un homme infirme comme lui était d'être mis à un endroit stratégique dans la ville pour que les passants aient pitié de lui et pour qu'on lui donne l'aumône. Mais il y avait un autre problème avec l'invalidité à cette époque, c'est cette notion juive très répandue que toute maladie, toute infirmité était une conséquence directe d'un péché spécifique commis. Par exemple, dans Jean 9, on le voit très bien, dans la situation du miracle d'un aveugle qui est guéri, dans Jean 9, 1, il est dit « Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question, « Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle. Donc même les disciples avaient cette notion comme quoi une tragédie dans ta vie était probablement liée à un péché spécifique que tu aurais peut-être fait dans ta vie, toi ou peut-être tes parents même. Vous rappelez la tour de Siloé dans Luc 13, c'est pareil, cette tour est tombée, tuée 18 personnes et tout le monde se demandait « Ah mais qui a péché pour que cela arrive à eux ?» Alors, il est juste de dire que toute maladie est la conséquence de la présence du péché dans le monde. Après la chute dans Genèse 3, l'homme et la terre ont été maudits par Dieu. Et donc, dorénavant, c'est pour ça qu'on tombe malade, c'est pour ça qu'on meurt. Le salaire du péché, c'est la mort. Ça, on est d'accord. Cependant, les afflictions précises ne sont pas, alors attention, nécessairement le résultat direct d'un péché spécifique. Pas toute infirmité n'est un châtiment de Dieu pour un péché spécifique, bien que cela soit possible. Dans Corinthiens 11, certains chrétiens qui prennent indignement la Sainte Cène, nous dit la Bible, peuvent être malades ou infirmes. Donc on sait que c'est possible, on peut être puni pour une vie de péché, ça c'est sûr. Mais ce n'est pas obligatoire que toute infirmité est liée à un péché spécifique. Non, simplement, nous sommes dans un monde déchu, un monde de péché, la maladie et l'infirmité va avec. Donc, tout ça pour dire que ce paralytique non seulement était paralysé, mais peut-être se demandait lui-même, mais pourquoi est-ce que moi je suis paralysé par les autres? Est-ce que moi j'ai commis un péché? Et certainement que les gens lui rappelaient et lui posaient la question. Comme les amis de Job insistaient que la galère de Job était à cause d'un péché dans sa vie. Alors voilà les problèmes de cet homme. Pas évident. Mais malgré tous ces problèmes, cet homme avait quelque chose d'incroyablement merveilleux. Vous savez ce que c'est? Quatre bons amis. Quatre bons amis. Et ça mène au point 3. La persistance des porteurs. La persistance des porteurs. Verset 3. Des gens vinrent à lui amenant un paralytique porté par quatre hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où ils étaient et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Donc voici le paralytique couché sur son lit, porté par quatre amis. Son lit n'était certainement rien de plus qu'une planche en bois avec quatre pieds, avec un matelas rudimentaire fabriqué en paille, posé dessus. Alors, question, pourquoi ces quatre amis apportaient-ils le paralytique à Jésus? Eh bien, je pense que la réponse est claire. Ils se disaient, Jésus guérit plein de monde, peut-être qu'il va aussi guérir ce paralytique. Le problème, c'est que le verset 4 nous informe qu'il y avait tellement de monde qu'il ne pouvait l'aborder à cause de la foule. Alors, on avait déjà vu au verset 2 que la foule était énorme. L'accès à Jésus était impossible. On peut même imaginer que s'il y avait des fenêtres, que les fenêtres étaient remplies de gens et des gens autour, juste pour entendre et essayer de voir. Toutes les bonnes places et même les mauvaises étaient prises. Alors, ils arrivent là, ils portent leur paralytique, bloqués partout. Alors, les quatre amis du paralytique ont une idée ingénieuse. Puisque la porte est bloquée, et puisque les fenêtres sont bloquées, alors on ne sait pas si le lit aurait pu passer par les fenêtres, ils vont faire quelque chose d'incroyable. Verset 4, comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était, et le descendirent par cette ouverture, le lit sur lequel le paralytique était couché. Alors les maisons en Palestine à l'époque avaient souvent deux étages, puis un toit, et la plupart de l'hospitalité se faisait au deuxième étage ou sur le toit. Le toit était souvent plat, auquel on pouvait accéder par un escalier extérieur ou bien par un toit avoisinant. Et on utilisait beaucoup le toit à l'époque, aussi pour dormir la nuit lorsqu'il faisait chaud. Vous vous rappelez peut-être que lorsque Pierre priait dans Actes 10, il est monté sur le toit. Et c'est sur le toit qu'il priait. Et là, Dieu lui apparut. Donc, ses amis décident de monter sur le toit. C'est vrai, comme j'avais déjà dit, aucune personne n'allait céder la place pour ce paralytique, et surtout pas parce qu'au verset 6, on apprend qu'il y avait même les scribes qui étaient là. Ça, on y reviendra. Donc, ils prennent le lit, le paralytique, montent les escaliers extérieurs, probablement, qui menaient au toit. Alors, il faut toujours garder le lit horizontal aussi, hein, donc ça demande un petit peu de travail. Apparemment, une fois qu'ils arrivent sur le toit, ils estiment l'endroit au-dessus duquel ils pensent se trouve Jésus, parce qu'on apprend dans le texte parallèle qu'ils descendent le paralytique littéralement devant Jésus. Alors maintenant, il y a un toit, donc il faut percer un trou. Et un trou assez grand pour que le lit plat puisse passer au travers, donc ce n'est pas un petit trou. Alors ces quatre hommes commencent à démolir le toit sur lequel ils se trouvent. Alors les toits étaient faits de poutres sur lesquelles d'autres poutres translatérales plus petites étaient posées. On y ajoutait ensuite des branches de toute taille sur lesquelles on ajoutait en plus une couverture de boue et d'argile mélangée de paille coupée sur lesquelles on mettait des tuiles. Donc ces hommes enlèvent en premier les tuiles, une à une, puis avec des bouts de bois qu'ils ont trouvés à droite et à gauche, eh bien, ils commencent à creuser, à gratter cette boue sèche qui recouvrait le toit. Et au fur et à mesure que les poutres translatérales étaient découvertes, eh bien, ils enlevaient les feuilles, ils enlevaient la paille, ils enlevaient les branches, ils enlevaient les poutres. Maintenant, on se met à l'intérieur de la pièce. La pièce pleine à craquer, de gens serrés les uns contre les autres. Les gens écoutent attentivement l'enseignement de Jésus. Et tout d'un coup, on entend un drôle de bruit. Là-haut, un grattage étrange. Alors tous regardent en l'air pour voir ce qui se passe, sans savoir ce que c'est. Certains deviennent certainement irrités de ce bruit dérangeant. Jésus continue d'enseigner. Le bruit augmente. Tout à coup, de la poussière commence à tomber du plafond. Les gens regardent vers le haut, perplexes. Puis tout d'un coup, des morceaux de terre tombent. Peut-être des gros morceaux de plafond, peut-être des branches tombent. Les gens commencent à lever leurs mains pour se protéger des morceaux qui tombent. Maintenant, c'est de la poussière partout, sur leurs cheveux, sur leurs habits, dans leurs yeux. Mais personne ne veut trop bouger parce qu'ils ne veulent pas être hors de la pièce, ils veulent rester proche de Jésus. Soudainement, un trou apparaît. Et la lumière du jour éclaire toute la pièce. Maintenant, des gros morceaux de plâtre tombent sur l'auditoire. Peut-être même une tuile ou deux, des branches, beaucoup de poussière. Là, c'est la confusion totale. Pierre et André, le propriétaire de la maison, ils y croient pas. Quelqu'un démolit notre maison. Le trou s'agrandit. Tous regardent. Tout d'un coup, on voit ces quatre hommes, visibles maintenant. Et le trou s'agrandit, et une fois qu'il est assez grand, ils disparaissent pendant un temps, et puis l'impensable arrive. Les quatre hommes prennent probablement les cordes qu'ils ont trouvées sur le toit, parce que rappelez-vous que Pierre et André étaient pêcheurs, donc ils prennent les cordes, attachent ces cordes au pied du lit, soulèvent, réapparaissent sur le trou, tout d'un coup il y a de l'ombre quand le lit arrive, et avec beaucoup de soin, descendent l'homme paralytique jusqu'au pied de Jésus. La foule est stupéfaite de ce qu'elle est en train de voir. Luc 5, 19 nous dit que le paralytique est positionné devant Jésus. Ils ont certainement lancé les cordes. Certainement que les quatre amis maintenant s'accroupillent autour du trou parce qu'ils ont les meilleures places de la maison tout d'un coup. Et regardent attentivement la suite du trou dans le toit qu'ils viennent de faire. C'est fou, non? Juste de se plonger dans cette histoire. Moi, je lui pose une question. On y reviendra à la fin. Qu'est-ce que vous pensez de ces quatre amis? Moi, je pense que tout homme et toute femme aspirent à avoir des amis comme eux. Pouh. Ces hommes ont démoli un toit qu'il allait devoir rembourser au propriétaire pour leur ami. Ça, c'est de l'amour. Ça, c'est de l'amour pour un ami. 4. La promesse du pardon. Verset 5. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Alors c'est intéressant, le paralytique dit rien qu'on sache. Possible que ses cordes vocales étaient elles-mêmes aussi paralysées, on ne le sait pas. Ou bien l'homme est tout simplement lui-même dans l'étonnement de se retrouver face à face devant l'homme qui avait le pouvoir de le guérir, et ça il le savait. Peut-être qu'il savait tout simplement pas quoi dire. Mais soudainement, cet homme, dans la prison de son corps, paralysé, se trouve devant Jésus. Et là, il entend cette phrase, mais alors à laquelle il s'attendait pas du tout. « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Non, parce qu'il ne s'attendait pas du tout, parce que ce n'est pas pour ça que lui et ses amis l'ont amené. Ce n'était pas pour être pardonné, c'était pour être guéri. Je ne sais pas s'ils avaient pensé au pardon, mais on sait très bien qu'il était là pour être guéri. Donc là, bouche bée quoi. Quoi ? T'as ce que j'ai bien entendu ? Alors qu'est-ce qu'il déclare ici Jésus ? C'est intéressant. En disant « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés », Jésus déclare à cet homme que ses péchés sont pardonnés. Cela veut dire que Jésus lui a dit qu'à partir de cet instant, ses péchés sont effacés et qu'il ne sera pas jugé pour ses péchés. Vous vous rappelez ce que Jean-Baptiste a dit par rapport à Jésus ? Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, Jean 1, 29, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Alors ceci implique que le paralytique avait compris qui était Jésus et qu'il avait cru en lui. Parce que nous savons que nous sommes sauvés par la foi uniquement. Paul dira plus tard, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Alors bien sûr, le texte dit ici que Jésus a vu leur foi. Première lecture, la foi des quatre amis. Mais ensuite, il a déclaré au paralytique que ses péchés étaient pardonnés. Eh bien, cela ne veut pas dire que le paralytique n'a pas eu de la foi non plus. Il peut être inclus dans le leur. Le leur peut parfaitement inclure la foi du paralytique. Il est improbable que le paralytique ait été porté jusqu'à Jésus contre sa volonté. La différence, c'est que la foi active des quatre amis était visible, pas celle du paralytique. Là, on voit un exemple aussi dans Luc 7, 48, je trouve intéressant cet exemple. C'est cette femme qui répand du parfum sur Jésus, et il est dit dans Luc 7, 48, et il dit à la femme, « Tes péchés sont pardonnés ». Jésus dit à cette femme, et ensuite ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, « Oui, qui est celui-ci qui pardonne même les péchés ?» Mais Jésus dit à la femme, « Ta foi t'a sauvée, va en paix. » Donc Jésus clairement exprime que ses péchés sont pardonnés. Pourquoi ? Parce que son geste prouvait qu'il avait foi en lui. Pareil pour le paralytique. Et par cette phrase à laquelle on ne s'attend pas, Jésus, quelque part, est en train de déclarer, écoutez bien ce que je vais dire, que le pardon des péchés est infiniment plus important que la guérison physique. Il est en train de dire, en fait, que le pardon des péchés, mes amis, est le plus grand besoin de l'homme. C'est le pardon des péchés. Alors ce qu'il faut comprendre ici, c'est qu'aussitôt qu'il prononce cette phrase, eh bien, il y a un tournant radical qui se produit dans l'histoire. Point 5, regardez. La pensée des prêtres. Tout d'un coup, c'est comme le spot passe du paralytique aux prêtres qui sont là, le scribe. Le verset 6, il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi ? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ?» Matthieu nous dit qu'il y avait là des scribes qui étaient les docteurs de la loi juive, et Luc 5, 21 nous apprend qu'il y avait en plus des pharisiens qui étaient là. Et ce verset nous dit qu'ils étaient là assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem. Les scribes et les pharisiens étaient, on peut dire, les partis religieux ou politiques juifs, puisque c'était une théocratie. Et ils sont présents. Pourquoi est-ce que les scribes et les pharisiens sont là? Eh bien, tout simplement parce que le bruit avait couru dans tout le pays, comme quoi il y avait un homme en Galilée, à Capernaum en particulier, qui faisait des miracles époustouflants, et beaucoup de gens, de plus en plus, affirmaient qu'il était le Messie. Alors, les Juifs se sont déplacés pour vérifier. Et il attirait de grandes foules. Alors ils sont là, ils veulent voir le miracle. Et Jésus ne fait pas le miracle tout de suite. Il dit, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Alors là, les scribes et les pharisiens, mais ils sont soufflés quoi. Ils sont choqués par ce qu'ils entendent. Parce qu'il faut savoir que ni les scribes ni les pharisiens prétendaient pouvoir pardonner les péchés, sauf le jour des expiations dans Lévitique 16, mais là encore, c'était vraiment un acte d'absolution divine. De ce fait, ils sont scandalisés lorsque Jésus prétend pouvoir pardonner les péchés de cet homme. Et ils disent, mais qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul, disaient-ils dans leur cœur. Et sur ce point, ils avaient 100% raison, mes amis. 100% raison. Le pardon des péchés est le privilège qui revient à Dieu seul. Car en fait, tout péché que nous commettons, même les uns envers les autres, est en premier un péché contre Dieu. Et ça, on le sait parce que dans le psaume 51:4, lorsque David commet le péché d'adultère avec Bathsheba, dans son psaume de confession, le psaume 51:4, il dit, verset 6 en fait, il dit, « J'ai péché contre toi seul », David dit. Alors quelque part c'est faux dans le sens qu'il a péché contre Bathsheba, contre son mari, contre beaucoup de gens, contre Israël aussi, mais David réalisait que tout péché est en premier un péché contre un Dieu qui est saint. Donc ils ont raison. Ils ont raison. Seul Dieu peut pardonner les péchés. Ésaïe 43:25, c'est moi qui efface les transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés, dit Dieu. Dieu seul peut pardonner les péchés. Michée 7:18, psaume 103:1-3, il y a beaucoup de versets qui en parlent. Alors leur conclusion, verset 7, comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Et c'est pas rien d'accuser quelqu'un de blasphème, parce que Lévitique 24:16 dit ceci, « Celui qui blasphémera le nom de l'Éternel sera puni de mort. » Le blasphème était punissable de la peine capitale. Donc lorsque Jésus dit « Je te pardonne », ils disent « Mais attends, il n'y a que Dieu qui peut pardonner, tu viens de blasphémer ». Tu mérites de mourir. Alors, ce qui est intéressant, dans Marc 2, verset 8, Jésus ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'il pensait au-dedans d'eux, il leur dit, pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Ah, mais ils se disent, c'est scribe, mais attends, c'est un charpentier de Nazareth. Il est en train de dire qu'il peut pardonner les péchés, mais il est gonflé. C'est vraiment ce qu'ils sont en train de dire. Mais il se prend pour qui? Il se prend pour le Messie? Bonne question! Mais ils l'ont mal répondu. Ils auraient dû répondre oui. Mais ils auraient dû se rappeler d'Ésaïe 53. Tout le passage parle du serviteur qui est là pour prendre le péché du peuple sur lui. Et là, il lit leur cœur, parce que Jésus est Dieu, il est omniscient, il sait tout. Et il lit leur cœur. Il voit exactement ce qu'ils pensent dans leur cœur, le verset 8 nous dit. Ça me rappelle Jean 2, Verset 24, mais Jésus ne se fiait point à eux parce qu'il les connaissait tous et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on rende témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Jésus arrive lire les cœurs, mon ami. Il sait lire, il te connaît parfaitement, il connaît nos pensées, il connaît tout sur nous. Alors tenez-vous bien, la perspicacité du plan. Jésus a un plan. Verset 9. Lequel est le plus aisé de dire aux paralytiques ? Donc maintenant il sait, il vient de lire dans le cœur de ces hommes leur question, il pense que Jésus a blasphémé. Alors là, il leur pose une question intéressante. Lequel est le plus aisé de dire aux paralytiques ? Tes péchés sont pardonnés, ou de dire lève-toi, prends ton lit et marche. Alors, le raisonnement des scribes est simple. Seul Dieu peut pardonner les péchés. Jésus n'est donc pas Dieu, c'est ce qu'il conclut. Donc Jésus ne peut pas pardonner les péchés, mais il vient d'offrir à cet homme le pardon des péchés. Jésus donc blasphème. Il s'attribue un pouvoir qui seul appartient à Dieu. Alors, dans le verset 9, Jésus dit quoi ? Il dit, qu'est-ce qui est plus simple à dire ? Tes péchés sont pardonnés ? Alors, je vous pose la question, est-ce que c'est simple à dire ? Ne répondez pas. Oui, parce que je ne peux pas le prouver. Moi, je peux dire à quelqu'un, je te pardonne tes péchés. Alors, la personne, elle me regarde, elle dit, c'est sympa, mais prouve-le. Je ne peux pas le prouver. C'est impossible de prouver. Je ne peux pas vous prouver que moi, j'ai le pouvoir de pardonner tes péchés. Donc, c'est facile à dire. Donc, il dit, est-ce que c'est plus facile de dire au paralytique tes péchés sont pardonnés ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Si un paralytique ici, je lui dis, lève-toi, prends ton lit et marche. Si je dis ça, vous attendez quoi là maintenant ? Bah fais-le. Ça c'est facile. Facile à prouver. Faut le faire. Donc c'est beaucoup plus difficile de dire la deuxième phrase, paralytique, lève-toi et marche, parce qu'il faut le prouver, que de dire à quelqu'un, bah écoute, tes péchés sont pardonnés. T'arrives pas à le prouver. C'est impossible de prouver. Donc il est plus facile de dire tes péchés sont pardonnés. Plus difficile à dire, lève-toi et marche. Alors maintenant, si Jésus guérit cet homme devant les scribes et les pharisiens, la conclusion est simple. S'il peut faire ce qui est beaucoup plus difficile à prouver, ça veut dire ce qui est du pardon du péché, ce sera fait automatiquement. Si Jésus peut faire devant eux ce qui est le plus difficile à prouver, il n'y a aucune raison de penser qu'il ne pouvait pas faire l'autre chose qui est le pardon des péchés. 7. La puissance de la preuve. Or, verset 10. Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. En un instant, cet homme est complètement guéri. La force, en un instant, est revenue dans son corps. Ses muscles atrophiés ont instantanément retrouvé leur force. Leurs nerfs morts ont retrouvé leur sensibilité. Ses jambes, ses pieds, ses doigts de pied, ses bras, ses mains, son corps en entier a retrouvé une parfaite santé. Cet homme qui était couché depuis des années, incapable de bouger, dépendant d'autres personnes pour le déplacer, en un instant, se lève devant tous. Personne n'a besoin de l'aider. Il se met devant tout le monde, debout. Il est seul, debout, devant tout le monde, dans cette pièce. Et Marc ajoute dans Marc 2:12, il leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde. Il est époustouflé lui-même de ce qui vient de se passer. Il est debout. Instinctivement, il prend son lit, symbole de sa paralysie. Il le lève devant lui et sort. Là, tout d'un coup, tout le monde se bouge. Il y a de la place tout d'un coup, d'accord ? Il sort totalement guéri, en train de porter son lit. Ô scribes, ô pharisiens, ô peuple, ô toi qui écoutes, est-ce que tu comprends la conclusion ici? N'est-ce pas clair ce que Jésus vient de faire et ce qu'il peut faire? Il vient de faire ce qui paraît impossible à faire, il guérit l'homme. Donc il est en train de prouver qu'il peut réellement pardonner les péchés des hommes. Moi je trouve le verset 10 fabuleux. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre. Mes amis, Jésus-Christ est le seul sur toute la terre qui a le pouvoir de pardonner les péchés. Il est le seul. Son sacrifice à la croix est la preuve. Il est mort et ressuscité. Aucun autre prophète soi-disant religieux dans l'histoire du monde n'est ressuscité. Il a prouvé qu'il avait le pouvoir. Il a vaincu le péché. Il a vaincu la mort. Lui peut pardonner le péché, c'est vrai. C'est pour ça que la Bible est tellement catégorique sur ce point. Écoutez des versets comme celui-ci. Acte 4, 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devrions être sauvés. Seul Jésus. Jean 14, 6. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Comment est-ce que la Bible peut être si catégorique? Mais parce qu'il a guéri un paralytique instantanément. Et ça, c'est très difficile à faire. Et donc, lorsqu'il proclame qu'il peut pardonner les péchés, ce qui est improuvable à la vue, regarde au paralytique. Huit. Je termine avec ceci, les perspectives des personnes. Moi, je crois qu'il y a trois leçons à prendre ici. La première leçon vient des scribes et des pharisiens. Ils sont là. Ils sont venus de Jérusalem, de la Galilée, de la Samarie, partout pour voir. Ils voulaient voir un miracle, ils l'ont vu. Incontestable. J'aimerais vous dire qu'ils ont tous commencé à louer le Seigneur, ils ont tous demandé à Jésus de leur pardonner de leurs péchés. Ça, j'aimerais pouvoir leur dire. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Marc 3 et le verset 6. Les pharisiens sortirent et aussitôt ils se consultèrent avec les Hérodiens, un autre parti religieux politique, sur le moyen de le faire périr. Jésus, tu es un blasphémateur. Tant, tu viens de guérir un paralytique devant nos yeux, on s'en fiche. Tu es un blasphémateur et tu mérites la mort. Vous dites, comment c'est possible? Cœur dur. Un aveuglement, quoi. Marc 3, 22. Pire. Et les scribes qui étaient descendus de Jérusalem dirent, il est possédé de Belzébul. Ils concluent, mais non, il est possédé par Satan. Donc ils disent, bon, c'est vrai qu'il fait quand même peut-être des miracles, mais ces miracles viennent de Satan. Là, il faut vraiment le faire, quoi. Là, il faut vraiment le faire, pour conclure ça. Ça fait peur, ce qu'un cœur dur peut faire. Alors moi, je te pose la question, est-ce que tu es comme un pharisien? Est-ce que tu es comme un scribe? Peut-être tu es ici, peut-être tu écouteras, je ne sais pas, sur le net. Il y a des gens qui vont cliquer sur le net. Moi, je te demande à toi, toi qui ne connais pas Christ, est-ce que tu es comme un scribe et un pharisien? Il y a une curiosité, mais ton cœur est dur. Et finalement, ce que tu as envie de faire, tu as envie de te débarrasser de Jésus, parce qu'il te gêne, il t'embête, il te trouble. Il met le spot sur ton péché, et tu as envie de te garder ton péché, tu n'as pas envie d'être pardonné ton péché, donc tu trouves un moyen de l'éliminer. Ça, c'est d'être scribal et pharisianique. Voilà, je viens d'inventer deux mots, hein, d'accord? Mettez-les dans le dictionnaire, d'accord? Faut faire attention. Deuxième leçon nous vient de la foule. Regardez verset 12. Verset 12. Et là, à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, nous n'avons jamais vu rien de pareil. Là, on peut se dire, ouah, trop bien. À la foule, tout d'un coup, elle éclate, elle loue le Seigneur, elle bénit Dieu pour ce qu'ils viennent de voir. Matthieu 9, 8 dit qu'il louait Dieu du fait que Dieu avait donné de tels pouvoirs aux hommes. On voit très bien que la foule, elle était gourmande de miracles, elle voulait voir des miracles, elle voulait voir des guérisons, et là ils ont été servis. Waouh, regardez, Dieu a donné de tels pouvoirs à cet homme. Vous dites, ben alors est-ce qu'ils n'ont pas cru? Ben c'est intéressant. Bonne question. Matthieu 11, 23, voici la conclusion sur la ville de Capernaüm où le miracle a eu lieu. Et toi, Capernaüm, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non. Tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts, car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. C'est pourquoi je vous dis, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement de toi. La foule, elle voulait voir des miracles. C'était un cirque. Et ils sont venus voir Jésus faire le cirque. Et ils ont été condamnés à l'enfer pour leur incrédulité. Et moi, je pose la question, est-ce que ça, c'est toi aussi? Est-ce que tu viens dans le monde évangélique pour avoir de la ferveur, pour voir des trucs, pour être touché par quelque chose de génial et waouh? Non, si tu viens, viens à Christ pour une chose, le pardon de tes péchés, et c'est tout. Il peut te guérir, ok, mais ne viens pas à la recherche d'une guérison, parce qu'il risque de ne pas te la donner. Il ne guérit pas tout le monde. Le but ici, c'est le pardon des péchés. Et ça mène à la troisième et dernière application. La troisième leçon vient des quatre amis du paralytique. Ils voulaient une chose, amener leur ami à Jésus. Jésus a béni leur foi, rappelez-vous, leur foi. Moi, la question que je pose, est-ce que nous sommes comme les quatre amis du paralytique et le paralytique? Est-ce que tu veux vraiment être pardonné de tes péchés? C'est pas un mal de vouloir être guéri si tu es malade. On est appelé à prier pour les malades dans Jacques 5. C'est pas un mal. Dieu peut guérir un malade miraculeusement. Mais la vraie question est-ce que tu veux être pardonné par Jésus? Tu dis, oh, mais comment je fais? Il n'y a rien de plus simple. Tu lui parles. Tu lui dis, Jésus, écoute, je suis pécheur. Tu as déclaré à cet homme que ses péchés sont pardonnés. Seigneur, aujourd'hui, je te demande, pardonne-moi mon péché. Et Jésus te pardonnera ton péché. Tu dis, mais comment je sais? Ah, ça c'est entre toi et Dieu. Tu verras. Quand il te pardonne, tu le sauras. Vraiment. Il te pardonnera et il va transformer ton cœur, transformer ta vie. Tu dis, ouais, mais regarde au paralytique. Il l'a guéri instantanément. C'est plus difficile à prouver ça que de dire simplement tes péchés sont pardonnés. Non, s'il a fait ça, il peut vraiment te pardonner. Demande-lui et tu verras. Inclinons-nous. Seigneur, vraiment, merci pour cette histoire incroyable et ce que nous voyons de manière claire. C'est le pourquoi de ta venue, Seigneur. Tu es venu offrir le pardon des péchés. Tu es venu offrir l'évangile, la bonne nouvelle de l'évangile. Tu es venu prêcher cet évangile. Seigneur, s'il y a quelqu'un ici ce matin qui ne connaît pas le pardon que tu offres, je te demande que maintenant ils disent, Jésus, pardonne-moi maintenant pour tous mes péchés. Révèle-toi au Seigneur, fais ton œuvre comme tu l'as fait dans ma vie à 19 ans. Nous te remercions au nom de Jésus. Amen.